serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Sévrac-le-Château, 102.3.
Et à Lourdes sur le 96, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur les fréquences de Présence. C'est l'heure du Présence Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h en direct des studios de Lourdes sous un très beau soleil qui va perdurer tout au long de ce week-end avec une montée des températures. Au sommaire de cette émission, dans quelques instants, direction l'Arstarac, côté Gers, près de Marciac, à la rencontre de François Coutan, agriculteur de son état. Il sera au cœur de la chronique verte de Benoît Guillard. Le coup de cœur en librairie, ce sera en compagnie du frère Martin de l'abbaye de Tournai qui nous proposera de découvrir un ouvrage traitant de l'évangile selon saint Matthieu. Nous aurons les informations régionales à 12h36 et la pastorale de la santé sera au cœur de la chronique solidaire de Anne Deslois. Et enfin, pour terminer cette émission, nous partirons sur les sentiers pyrénéens en compagnie de Catherine Albrecht, qui nous invitera à nous y promener en compagnie de Franz Schreder, un personnage qui mérite d'être connu puisqu'il a beaucoup œuvré pour la découverte de nos belles Pyrénées. Voilà le sommaire de cette heure que nous allons passer ensemble. Je vous propose de la débuter avec les titres des informations de ce jour.
Toulouse accueillera du 6 au 10 juillet la conférence mondiale sur la recherche dans les transports avec plus de 1500 experts internationaux réunis autour des mobilités de demain. En Ariège, près de 300 personnes ont été contrôlées par l'Office français de la biodiversité lors d'une vaste opération menée durant le mois de mai. À Decazeville, une première conférence a marqué le lancement des célébrations du bicentenaire de la ville minière. Dans les Hautes-Pyrénées, le Tarbes Urban Trail prépare son édition 2026 prévue pour le 18 juin avec un nouveau parcours et plusieurs centaines de participants attendus. À Figeac, le centre-ville redeviendra piéton pendant l'été afin de favoriser les déplacements doux et l'activité touristique. Et enfin pour finir, 13 nouvelles entreprises d'Occitanie ont obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant, une distinction qui récompense l'excellence des savoir-faire artisanaux et industriels de la région.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de mettre en valeur la parole d'agricultrices, d'agriculteurs qui sont engagés, qui incarnent un certain nombre de pratiques et qui expriment leur espérance face notamment à la situation actuelle, à la crise. Et donc, je suis actuellement avec François Coutan, qui est dans l'Astarac, qui habite à quelques pas de notre département des Hautes-Pyrénées, que je connais depuis longtemps, et qui a entamé, il y a déjà 20 ans et plus, une pratique d'agroécologie sur son exploitation. Et donc, je voulais partager un petit peu ce témoignage avec vous, chers auditeurs, et puis nous permettre justement de réfléchir sur les mutations en cours, sur les difficultés du monde agricole, et s'inspirer des témoignages d'un certain nombre d'agricultrices et d'agriculteurs sur nos territoires. Donc, François, bonjour. Peut-être deux mots de présentation.
Oui, bonjour. Donc, François Coutan, je suis agriculteur jeune retraité actuellement à Marciac, sud-ouest du Gers, pas loin des Hautes-Pyrénées, c'est tout à fait ça. Je suis marié, j'ai quatre enfants. et je cède mon exploitation actuellement à mon gendre. Voilà, après c'est tout un long cheminement.
Alors peut-être simplement, François, si vous pouviez nous présenter en quelques mots, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans cette démarche d'agroécologie ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ?
Oui, c'est vrai qu'au départ, peut-être il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont incité à changer complètement. C'est parce que c'est vrai que moi j'ai repris une exploitation dans une situation financière très compliquée. Et on avait construit un lac pour s'en sortir, ce qui a très bien marché pendant 7 ou 8 ans, mais où on a vite connu la crise par rapport aux coteaux et l'érosion. Et c'est là qu'on a, avec l'accompagnement, c'est vrai, de la CUMA et je suis rentré au CETA Agrodoc, où on a complètement remis tout en route quelque part. On est reparti sur un chemin complètement différent parce qu'il n'y avait plus de rentabilité quelque part. C'était ça le but essentiel. Et après, je me dis, bon, après, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas le dire en quelques minutes si on veut aller par là. Mais bon, l'essentiel, c'était ça. C'est peut-être qu'on a connu la crise avant la crise. Et ça a été sans doute important.
Alors tout à fait, la crise avant la crise, mais concrètement, peut-être en deux mots, nous dire un petit peu qu'est-ce qui a vraiment changé quotidiennement dans votre pratique avec ce choix-là.
Ben, ce qui a changé, c'est bon, après ça se fait pas du jour au lendemain, parce que moi on a arrêté le labour en 1993. C'est vrai qu'aujourd'hui ça fait plus de 30 ans, hein. Mais c'est vrai quand on voit le résultat, je me dis bon c'est possible. Donc on a arrêté le labour, mais je le redis avec un accompagnement, parce que j'étais rentré au CETA Agrodoc, donc on avait les ingénieurs d'Agrodoc qui nous suivaient, on avait une réunion tous les 15 jours, parce que c'était en même temps qu'il n'y avait plus les GDA, donc les agriculteurs ne se retrouvaient plus. Et le gros problème pour moi, je dis aujourd'hui, de beaucoup d'exploitations, c'est que les agriculteurs ont été livrés à eux-mêmes. Ça n'a plus été les agriculteurs qui se sont retrouvés ensemble, c'est les techniciens, c'est quand il y a eu ce changement que les techniciens ont été financés par les coopératives plutôt que les chambres d'agriculture. Et là, ça a été l'inverse, c'est le technicien qui venait chez l'agriculteur. Et à partir de ce jour-là, il n'y a plus de développement vraiment et les agriculteurs n'ont plus ces échanges entre eux. Et pour moi, la cause aujourd'hui du mal-être quelque part, elle est en partie, bon c'est facile de le dire avec le recul, hein, mais bon, c'est quand même très important. Mais si on veut parler un peu plus de l'évolution de mon exploitation, donc on a arrêté le labour en 1993 et après on a essayé pas mal de semi-direct. On a fait du semi-direct en conventionnel. À l'époque, on était en conventionnel, toujours dans mes coteaux, jusqu'en 2000 où on a avancé beaucoup plus vite le jour où on avait découvert la févrole. Et là, on a passé un peu la vitesse supérieure par rapport à l'augmentation du taux de matière organique. Les deux combinés, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Et après, bon, en 2015, on se disait, parce qu'on avait quand même très bien maîtrisé, on commençait à très bien maîtriser les semi-directs sous couvert, avec une baisse d'intrants qui était énorme. Parce que même des années où on avait des très grosses févroles, on mettait plus de glyphosate. Les quantités d'azote étaient tombées de 2 pour du maïs, de 200 unités à 80 unités d'azote, parce que, ben, une févrole, il faut savoir qu'elle fournit quand même 300 unités d'azote, dont un tiers est disponible dans les 3 premiers mois. Et après, on a dit, bon, il faut aller plus loin, mais toujours parce qu'on était aussi en groupe, j'étais pas tout seul, hein. C'est ça, je le redis. On était 3 ou 4 dans la CUMA à travailler un peu ensemble et au groupe de CETA, en plus on était au CETA ensemble. Et là on a dit, bon, il faut améliorer. Quand je voyais la problématique du bio dans le Gers, je me disais, bon, ça, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Parce que pour moi, écologiquement, c'était encore pire que le conventionnel. Quand on voyait tous ces labours, ces travails du sol intenses en bio. Et c'est là qu'on a dit, bah, il faut qu'on essaie de trouver des solutions, même pour le bio. Et c'est vrai que mes 7, 8 dernières années, je me suis consacré à ça, à trouver des systèmes en bio, sans toucher le sol presque. Et alors, bon, après, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est mon gendre qui reprend. Et en plus, lui, il est passionné quand même d'élevage et il a besoin d'élevage pour le transformer. Alors là, on remet tout en prairie. Oh, ben là, c'est le top. Et après, même aujourd'hui, il vient de récupérer des terres. C'est une anecdote, mais des terres qui étaient labourées et irriguées depuis 30 ans, là, dans les coteaux. Et il me dit, mais pourquoi là, ça pousse pas et là, ça pousse? Et c'est vrai que pour tout expliquer, pour tout comprendre, voilà, c'est bon, c'est des petites choses. Mais enfin, aujourd'hui, on est quand même arrivé à 4% de matière organique sur 30 cm. alors qu'on a démarré à 1,7 en 1993, quoi. Et c'est, je vous garantis que le résultat, c'est pas le même. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à ces taux-là, on est capable d'être complètement autonome, hein. C'est tout à fait ça, hein. On n'achète aucun intrant, hein. C'est en plus de bio, alors là, c'est sûr, il n'y a pas non plus de produits phyto. Mais et on se rend compte que c'est capable. Et en plus, on est suivi encore par un groupe de pâturage tournant dynamique, Inaveco 2, et qui nous dit, bon sang, mais vous êtes vraiment dans la fourchette haute de production, quoi. Alors qu'on est dans les coteaux très raides du département. Mais on sort une production très importante quand même.
Alors on voit effectivement dans cette démarche, telle que vous le témoignez, François, qu'elle a vraiment changé votre rapport au métier. Elle a dû changer aussi pour vous le sens du travail, tout simplement. Et puis le regard aussi sur les autres.
Ben, c'est vrai qu'il y a des fois, on dit nul n'est prophète dans son pays, mais parce qu'il y a des fois, ça fait quand même râler de voir l'évolution, quoi, autour de nous, qui n'avance pas assez vite, même si ça avance. Parce que quand même, je me dis, ça avance quand même. Parce que quand je vois les Févrols, nous, on a commencé à en semer en 2000. Et aujourd'hui, quand même, ça s'est bien vulgarisé. Bon, c'est sûr, il faut 15 ans, mais 15 ans après, quand même. Donc, c'est des petites graines qui se sèment. Et après tout, parce que tout ça, c'est quand même des quantités d'azote qui sont plus apportées. Et par rapport à l'écologie, c'est quand même important. Même si c'est pas si ça fait pas tout, c'est quand même très important. Et bon, après, c'est vrai que, mais moi, je suis plein d'espoir parce que je me dis, ça a été possible sur mon exploitation dans des coteaux très raides. Bon, c'est sûr, j'ai eu la chance d'avoir l'accompagnement, ça se fait pas tout seul. Mais bon, on a les solutions quelque part aujourd'hui. Je me dis, on a les solutions. Donc, c'est possible.
Et sur le plan économique, par rapport à votre expérience, aujourd'hui, ça vous a apporté une certaine stabilité au niveau économique, moins de dépendance, sans doute, on l'a bien entendu, et puis plus d'autonomie.
Ah ben c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on prend l'exploitation, il y a 30 ans et l'exploitation aujourd'hui, même entre la dépendance au matériel, la dépendance aux intrants, la dépendance même à la main d'œuvre extérieure, la dépendance même à tous les groupes, les coopératives et tout ça, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de construire un stockage en commun, en Cuma encore. Et on a fait un stockage en Cuma et aussi une fabrique d'aliments à la ferme en Cuma, parce que c'est un peu la chaîne. Et donc, si on veut aller par là, on est complètement indépendant aujourd'hui. Et en plus, on n'est pas... Avec les animaux, c'est encore pire, parce que là, on ne met aucun intrant. Mais enfin, je vois mon frère qui est toujours resté aussi en culture. Mais c'est pareil, les intrants, c'est minime. Enfin, moi, quand on parle des intrants, c'est pas rien. Sur une exploitation de 100 hectares, aujourd'hui, moi, on est passé en bio, on est passé quand même de 50 à 60 000 euros d'appro à 5 000 euros d'appro, quoi. Et aujourd'hui, on est à zéro. Ben, c'est quand même différent. Enfin, il y a une approche quand même qui est complètement différente. Et c'est pas rien, quand même. Pour le psychique de la personne, quelque part. Parce que vous vous rendez compte, les risques qu'on prend, c'est bien moindre, quoi, quelque part.
Alors François, j'ai envie de vous poser cette question, puisque vous avez cette pratique de longue date et vous êtes un témoin de ce que peut être aujourd'hui pour votre exploitation agricole l'agroécologie. Est-ce que vous pensez que l'agroécologie peut être aussi une réponse collective aux crises agricoles actuelles ?
C'est sûr que de toute façon, quand on voit ce que le sol est capable de produire sans intrants, c'est là où... Quelque part, c'est phénoménal. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui fait aussi la rentabilité. Sachant que même par rapport au matériel, aujourd'hui, les puissances de matériel qui sont utilisées parce que le sol est dégradé. Alors que tous les agriculteurs vont vous le dire, hein, quand il y a eu une prairie de 10 ans, pour labourer derrière, mais ça se fait tout seul. Et pour préparer aussi. Mais qu'est-ce qu'il y avait ? La seule différence, c'est parce qu'il y a un taux de matière organique qui est très important. Autrefois, comment ils faisaient ? Ils faisaient des très beaux maïs, même sans irriguer, derrière une prairie de 7-8 ans. Et c'est vrai qu'il y a sans intrants, sans irrigation. C'est pour dire que la structure du sol, c'est quelque chose de primordial et qui, quelque part, on le comprend facilement, quoi, qui rend une rentabilité bien plus importante parce qu'il y a moins de charges. C'est même pas la rentabilité, c'est pas qu'on fasse plus de rendement et tout ça, mais c'est qu'on dépense beaucoup moins. Et alors après, bon, c'est sûr, le revenu, il y est ou il y est pas si ça nous coûte très cher.
Alors, cher François, on arrive à la fin de l'émission déjà. Hein. Ça passe vite et c'est passionnant. Mais bon, on se connaît. Je sais que vous êtes aussi investi dans l'église, sur le diocèse de Auch, en particulier dans le groupe Terre d'Espérance, je crois. Et donc, j'avais envie de vous poser cette question un peu plus spirituelle, un peu plus personnelle, savoir en quoi, justement, cette conversion et cette agroécologie, elle rejoint finalement vos convictions profondes, à la fois humaines et spirituelles.
Oui, bon, mais là, c'est quand même un sujet qui est un peu différent. Mais si, personnellement, c'est quand même parce qu'on œuvre quand même dans le bon sens, surtout quand on reprend là, la lecture du pape, là où d'autres aussi. C'est parce qu'on avait commencé à y travailler par rapport à ça, mais c'est, rien n'a changé quelque part. On nous dit de prendre soin de la terre, quoi, notre terre-mère, et c'est vrai que c'est quelque chose quand même de très inspirant, quoi, et puis même de très rassurant. Enfin, c'est primordial, même dans notre groupe Terre d'Espérance, là, quand on a une personne qui est à Toulouse, là, sur la météo et tout ça, et quand on voit aujourd'hui même l'agriculture, l'influence qu'elle pourrait avoir sur le réchauffement climatique, je me dis, quelque part, il faut qu'on essaie d'y travailler, quoi, tout ça, enfin. Et c'est notre rôle, en tant que chrétien, de le divulguer, même d'en parler, même si c'est pas facile, même si on a quelque part toutes les instances qui sont à des fois contre nous. Mais il faut quand même le faire savoir, parce qu'il y a des solutions, et c'est, en tant que chrétien, il faut quand même essayer de parler, de le dire, et même si c'est ça notre rôle de chrétien, c'est de le faire savoir.
En tout cas, merci infiniment, cher François. Je pense que, effectivement, votre témoignage est magnifique dans ce sens où on voit bien qu'une dynamique comme celle que vous avez entreprise, c'est-à-dire l'agroécologie, n'est pas un retour en arrière. On est quand même dans une manière d'avancer, mais autrement, et avec la terre plutôt que contre elle, c'est ça en résumé. Alors voilà, chers auditeurs, je tiens d'abord à vous présenter à cette occasion, puisque c'est la première émission de l'année, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, et puis je tiens à remercier aussi François Coutan pour ce beau témoignage d'espérance en tout cas, dans ces temps si difficiles que traverse le monde agricole. En tout cas, merci et à bientôt. Au revoir François.
Au revoir.
Voilà, vous l'aurez compris, s'il s'agissait d'une rediffusion, puisque Benoît Guillard est parti sur d'autres cieux, temporairement, rassurez-vous. On se retrouve dans quelques instants pour le coup de cœur en librairie en compagnie du frère Martin.
Au placard, et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps, je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs, destination ailleurs. On peut fermer un peu la porte, oublier les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination. Dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien,
destination ailleurs, c'était Yannick Noah.
Présence à Sévrac-le-Château 102.3.
Le coup de cœur en librairie, cette semaine en compagnie du frère Martin. Il est au micro de Anne-Rose Jankovic.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour chers auditeurs.
On vous retrouve pour la chronique littéraire. Et voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir au micro de Radio Présence. Vous qui êtes moine à l'abbaye Notre-Dame de Tournai, vous êtes le frère libraire notamment. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un ouvrage qui va nous faire un petit peu plonger dans les évangiles. C'est un ouvrage de frère David qui est moine à l'abbaye d'Ancalcate. Peut-être que c'est bien d'abord de rappeler qui est frère David.
Oui, frère David est un moine de l'abbaye d'Ancalcate. Il a écrit plusieurs ouvrages, il a été père abbé. Il a fait des études littéraires et donc il a participé aussi surtout à la traduction de la Bible liturgique, à la traduction du Missel romain. Et donc il a écrit un commentaire de l'évangile de Marc et maintenant il a commencé le commentaire de l'évangile de Matthieu. Mais le premier tome de ce livre donc va du début de l'évangile jusqu'au discours sur la montagne à la fin du chapitre 7 de saint Matthieu. Et en cette période de début juin, nous avons commencé dans la 10e semaine du temps ordinaire la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Et donc c'était intéressant peut-être de proposer à nos auditeurs d'approfondir ce qu'ils peuvent méditer par eux-mêmes ou qu'ils entendent pendant la liturgie.
Alors qu'est-ce qu'on va apprendre justement à travers cet ouvrage? Comment cet ouvrage va nous aider à aller plus loin dans l'évangile en fait, à comprendre ce qu'il y a un petit peu peut-être derrière les mots?
Alors ce qui est intéressant, c'est que frère David propose un éclairage qui peut-être j'aimerais qualifier de hors des sentiers battus quoi. Il va nous amener à entendre le texte d'une autre façon. Mais peut-être pour nos auditeurs, d'abord, ce qui me semble important, c'est que dans le livre, il y a un petit passage d'évangile qui est à méditer. Et donc ce que je vous invite d'abord, c'est vous de lire ce passage, de le méditer un peu par vous-même, voir qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce qui vous touche. Et ensuite, de lire le commentaire du frère David, parce qu'il va vous entraîner avec sa méditation à lui. Quoi.
C'est une sorte de lectio divina.
Tout à fait, c'est une introduction à la lectio divina.
Est-ce que ça, c'est pas un petit peu, peut-être, exigeant ou adapté à un public particulier qui est déjà averti? Est-ce qu'on peut vraiment se plonger comme ça dans les évangiles, dans cet évangile en particulier?
Au contraire, justement, c'est pour ça que je propose le livre de frère David, c'est que même si on n'est pas très habitué, et bien justement, son explication nous permet d'entrer dans le texte biblique, quoi. Et ce qu'il dit est vraiment compréhensible, même si on n'a pas fait des études de théologie, ça nous permet vraiment d'éclairer le texte et de lui donner une saveur spirituelle.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des points forts, des mots clés de l'évangile de Matthieu, mais aussi de cet ouvrage du frère David, des petits mots clés qui vont nous permettre vraiment de savoir qu'est-ce qui nous attend dans cet ouvrage?
Ce qui me paraît intéressant, c'est ce que j'ai déjà évoqué, c'est un autre regard, quoi. Mmh. Vous voyez déjà le grand texte, l'ouverture de l'évangile de Matthieu, qui est le premier évangile dans nos Bibles, commence par une longue généalogie. Et ce texte pourrait nous paraître un peu difficile. Et frère David, voilà, nous montre que le projet de cet auteur, qui Matthieu, nous présente une genèse, quelque chose qui nous renvoie au premier livre de la Bible, mais qui est avec Jésus un nouveau commencement. Et comment entendre ce qu'on peut connaître déjà de la Bible, mais le regarder d'une façon nouvelle? Et ce qui peut nous paraître pas évident dans cette généalogie, nous renvoie aussi à nos vies, où des fois dans nos vies, il y a des choses qu'on comprend pas très bien, il y a entre les familles et tout, des fois il y a des événements qui font que les choses ne vont pas tout à fait tout droit. Et donc voilà, on est invité à regarder que le Christ vient dans quelque chose qui est à la fois complètement dans la tradition et qui amène vers quelque chose de complètement nouveau.
L'idée, c'est que nous-mêmes, en lisant cet évangile, en faisant cette lectio divina, on ait l'impression, ou même pas que l'impression, qu'on puisse se sentir membre de cette... Enfin, s'inscrire dans cette genèse, en fait.
Ah, tout à fait. Et c'est vraiment, en plus, le but de l'évangile. Voilà, c'est de nous amener, nous, à marcher à la suite de Jésus, qui que nous soyons, quoi.
Dans l'évangile de Matthieu, il y a aussi ce passage. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'on peut parler de ce passage-là?
Oui, alors là, je trouve que là, le commentaire de frère David est intéressant, parce qu'il souligne que le sel et la lumière ne transforment pas, ne changent pas. On reconnaît exactement un objet, s'il est illuminé ou s'il est dans la ténèbre, et un mets de cuisine, qu'il soit salé ou pas salé, quand vous le regardez, il a exactement le même aspect. Et donc, c'est intéressant, voilà, de regarder que ce qui, a priori, ne change pas, peut être quand même transformé par la lumière, ou pour un aliment, transformé par le sel, qui va lui donner du goût et une saveur, quoi. Et chacun est invité, voilà, peut-être à se laisser regarder justement par le Christ, par la lumière de Dieu, qui peut venir transformer nos vies, et des fois, sans grand discours, notre présence cachée, en essayant de vivre des valeurs évangéliques, eh bien, peut interroger les personnes et les introduire à une relation avec le Seigneur.
C'est en Matthieu aussi que nous trouvons les béatitudes ?
Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant sur les béatitudes, c'est que de la première qui commence par les affligés, en fait, des choses qui nous concernent un peu personnellement, il met un zoom sur des situations qui concernent les relations entre les hommes, et pour montrer que Jésus vient à notre rencontre d'une petite situation particulière ou d'une situation qui concerne, voilà, ce qu'on dirait aujourd'hui, voilà, l'équilibre dans une communauté, les violences, les guerres et tout ça, voilà. Et si, même au cœur de situations difficiles, toujours la lumière du Christ vient nous rejoindre.
Alors moi, j'ai une petite question qui s'adresse vraiment à vous, frère Martin, au moine que vous êtes. Les évangiles, vous avez l'habitude de les lire, de les méditer. Alors en quoi est-ce nécessaire de lire un ouvrage comme celui du frère David quand on est moine et que de toute façon, eh bien, on a l'habitude du vocabulaire de la Bible et des évangiles, et que pour vous, c'est facile de comprendre tout ça?
C'est facile de le comprendre, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun a sa personnalité. Et donc, en fait, la lecture qu'il en fait et les idées qui viennent en lui sont personnelles. Et donc, c'est intéressant d'entendre et de lire, même pour quelqu'un qui a l'habitude de prier et d'avoir une lecture spirituelle, d'écouter l'éclairage que propose frère David. On pourrait le proposer, les mêmes textes, à d'autres moines, et bien, il y aurait chacun une touche personnelle.
Qu'est-ce qui vous a touché, vous, personnellement, dans ce texte ? Est-ce que vous avez découvert quelque chose que vous n'aviez pas vu ou ressenti jusqu'à présent en lisant Matthieu?
Ah oui, tout à fait. J'ai choisi et je lis quelquefois les commentaires du frère David parce que il a une vision qui nous amène dans un inattendu, quoi. Déjà, l'évangile nous amène dans de l'inattendu, mais il a vraiment l'art de nous rejoindre dans nos vies personnelles et de nous amener sur un chemin inattendu. C'est ça qui est intéressant. Et qui que nous soyons, vraiment, allez-y, vous pouvez, même si c'est la première fois que vous lisez à la limite l'évangile, vous avez le texte avec sa traduction et vous avez le commentaire qu'il en donne, et ça peut vraiment aider à rentrer dans une expérience de lecture méditée de la parole de Dieu.
Ça s'appelle Matthieu, la parole pleine à craquer, du frère David Marc Damonville, qui est un frère, donc moine de l'abbaye d'Encalcate. C'est paru chez dans quelle maison
d'édition ? C'est aux éditions du Cerf, et le livre coûte 22 euros.
Voilà, ça reste un prix abordable, et c'est évidemment un livre que l'on peut trouver dans votre librairie, à l'abbaye de Tournai.
Tout à fait, et pas particulièrement aussi à l'abbaye d'Encalcate dans le Tarn, et on peut peut-être aussi donner un petit coup de pouce à la jeune librairie catholique qui est chez les personnes de la région toulousaine, au couvent des Carmes, avenue Jean Rieux à Toulouse.
Matthieu, la parole pleine à craquer. Merci beaucoup, frère Martin, pour cette présentation. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation avec un nouvel ouvrage.
Merci à vous, bonne lecture à vous.
Et toutes ces propositions qui nous sont faites tout au long des semaines qui passent, vous pouvez les retrouver sur le site de la radio, radioprésence.com, rubrique culture. On se retrouve dans quelques instants pour les informations régionales.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow.
good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Bonjour à tous, à la une aujourd'hui, Toulouse s'apprête à accueillir un rendez-vous international majeur. Du 6 au 10 juillet prochain, l'Université Toulouse Capitole et la Toulouse School of Economics recevront la 17e conférence mondiale sur la recherche dans les transports. Plus de 1500 experts venus du monde entier sont attendus afin de réfléchir aux mobilités de demain, à la logistique, aux infrastructures ou encore à la transition écologique du secteur. Toulouse a été choisie parmi 17 villes candidates pour accueillir cet événement de référence qui réunira notamment des représentants d'Airbus, de la SNCF ou encore d'Air France. En Ariège, l'Office français de la biodiversité a mené une importante opération de contrôle pendant tout le mois de mai. Près de 300 personnes ont été contrôlées dans le cadre des vérifications liées à la protection de l'environnement, à la pêche, à la chasse ou encore aux activités de pleine nature. Ces opérations visent à sensibiliser les usagers mais aussi à faire respecter la réglementation dans les espaces naturels du département. À Decazeville en Aveyron, le bicentenaire de la commune continue d'être célébrer. Une première conférence historique a permis de revenir sur la création de cette ville minière née au 19e siècle autour de l'exploitation du charbon. Plusieurs rendez-vous sont programmés tout au long de cet été pour permettre de mettre en valeur l'histoire industrielle et humaine de ce territoire emblématique. Direction maintenant les Hautes-Pyrénées où les préparatifs du Tarbes Urban Trail entrent dans leur dernière ligne droite. La course prévue pour le 18 juin prochain proposera plusieurs parcours à travers la ville avec plusieurs passages dans des lieux habituellement fermés au public. Les organisateurs viennent de dévoiler les modalités d'inscription, le retrait des dossards ainsi que le nouveau tracé de cette édition 2026. À Figeac dans le Lot, le centre-ville redeviendra piéton cet été. Comme chaque année, la municipalité mettra mettre en place des redirections de circulation afin de favoriser les déplacements à pied ou en vélo pour soutenir l'activité commerciale et offrir davantage de confort aux habitants comme aux touristes pendant la période estivale qui arrive. Et puis enfin, pour finir, on va parler d'une distinction pour le savoir-faire régional. 13 nouvelles entreprises d'Occitanie viennent d'obtenir le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. Ce label récompense les artisans et industriels aux compétences d'excellence. Parmi elles figurent notamment la ganterie Cos à Milo, la manufacture joaillière d'Occitanie à Lourdes ou encore les alambics SOFAC dans le Gers. L'Occitanie compte désormais 93 entreprises labellisées Entreprises du patrimoine vivant.
Présence à Aspé 94.1.
Et à suivre sur Radio Présence, Franz Schrader, un pyrénéiste qui mérite vraiment d'être connu puisqu'il a débuté la cartographie de certains recoins de nos belles Pyrénées, en particulier du côté du cirque de Gavarny, sera le sujet de l'auteur mis en valeur aujourd'hui par Catherine Albrecht. Mais tout d'abord, nous allons retrouver Anne Deloy pour sa chronique solidaire. Nous allons parler de la pastorale de la santé du diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Solidairement Vôtre, l'émission, comme vous le savez, qui donne la parole aux acteurs du pôle diaconie du diocèse de Tarbes-Lourdes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Barbecombe, qui est responsable diocésaine de la pastorale de la santé, qui est aussi aumônier des hôpitaux. Bonjour Sabine.
Bonjour Anne.
Bienvenue au micro de Radio Présence.
Merci.
Vous êtes
de m'accueillir.
Déjà habituée. Alors aujourd'hui, Sabine, on va parler d'une façon générale de ce qu'est la pastorale de la santé. Je voulais vous demander, mais depuis quand en êtes-vous la responsable ?
J'ai commencé ma quatrième année. Je suis en mission depuis septembre 2022.
C'est donc Monseigneur Mika qui vous a nommé à
cette
poste.
Mission. Voilà. À la suite de Gérard Crozat.
D'accord. Alors Sabine, je ne sais pas, peut-être que nos auditeurs connaissent déjà bien votre service diocésain, mais expliquez-nous en quoi ça consiste, quelle est la mission de ce service pastoral de la santé.
Alors, ce service est très diversifié puisque il accompagne, en fait, le but de ce service, c'est de rejoindre et accompagner toutes les personnes ou en institution, hôpitaux, cliniques, ou en EHPAD, ou dans des masses et des femmes, ou à domicile, et surtout aussi à domicile.
Les masses et les faces.
Alors, maisons d'accueil spécialisées ou foyers d'accueil médicalisés pour des personnes adultes handicapées, porteuses de handicap.
Voilà.
Et donc, ce service de la pastorale de la santé accompagne toutes ces personnes. Alors, croyantes pour la plupart, hein, catholiques, mais il nous arrive souvent d'accompagner aussi humainement, spirituellement, et de plus en plus des personnes non croyantes, mais qui, pour des raisons diverses, comme l'annonce d'une maladie, comme la fin de vie, sont en recherche, sont en cheminement, font le point sur leur vie.
En fait, on est au cœur même de l'évangile, hein, puisque Jésus n'a cessé d'aller vers les personnes souffrantes, de les écouter, de les toucher, voilà, de leur redonner une place. C'est vraiment ce que vous vivez dans votre quotidien.
Et d'aller de se mettre sur leur chemin à elles et pas demander aux personnes de venir sur son chemin à lui.
Oui.
Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous cheminons au même rythme que les gens et nous ne les traînons pas, nous ne marchons pas devant elles, nous marchons à leur côté. Et si elles ne cheminent pas, nous ne cheminons pas. Enfin, je veux dire, on s'adapte à leur pas, à leur rythme.
Alors concrètement, Sabine, comment fonctionne ce service diocésain ?
Alors, ce service comprend trois entités, les aumôneries d'hôpitaux et cliniques, le service évangélique des malades. Alors, c'est un bien grand mot pour dire, oui. Ça comprend toutes les personnes qui, rattachées aux paroisses, aux différentes paroisses du diocèse, et donc sous la responsabilité du curé de la paroisse, vont visiter des personnes ou à domicile, ou en EHPAD privé, ou dans ces foyers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sachant que sur notre diocèse, il y a des centres gériatriques comme Castelmouly à Bagnères, la Bastide à Lourdes, les Gorottes et l'hôpital de Vic, où il y a des EHPAD, mais qui dépendent des hôpitaux. Et donc d'accord. Là,
des hôpitaux.
Exactement, c'est sous la responsabilité des aumôniers des hôpitaux. La troisième entité, c'est la pastorale des personnes porteuses de handicap.
Alors, on comprend bien que pour mener à bien toute cette mission avec ces trois entités, vous avez avec vous un certain nombre de bénévoles. Alors, on a bien entendu pour le service évangélique des malades, c'est plus dans les paroisses, hein, qu'il y a un réseau là local. Et pour le service diocésain, avec ces différentes entités, ça représente à peu près combien de personnes ?
Alors, c'est très difficile de vous dire parce que c'est tout le temps en train de changer. Là, à ma grande joie et à ma grande satisfaction, on sent un regain de personnes qui se sentent appelées et qui se mettent en route et qui sont en train de constituer des équipes ou qui nous sollicitent pour devenir bénévoles ou dans des équipes d'aumônerie ou dans les équipes dans les paroisses pour aller visiter dans les EHPAD.
Quels sont les profils de ces hommes et femmes qui sont à vos côtés pour mener cette mission auprès des personnes malades ou...
Alors, comme on parle, les aumôniers, la plupart sont salariés des hôpitaux. Oui. Donc, qui dit salarié dit qu'il faut être relativement jeune pour ne pas être à la retraite. Oui. Voilà. Mais sinon, toutes les personnes bénévoles ont plutôt un profil de retraité, jeune ou moins jeune, en tout cas actif. Voilà. Et désirant. Alors, certains sont d'anciens soignants, infirmiers, aides-soignants, médecins, mais ce n'est pas la majorité. Ça peut aider, en particulier dans les hôpitaux, pour comprendre le fonctionnement des services, mais on a des aumôniers qui n'étaient pas soignants et qui s'en sortent très bien et qui font un excellent travail.
Et du coup, comment vous-même et le service diocésain, disons, accompagne ces personnes bénévoles ? Je suppose qu'il y a peut-être des temps de formation.
Alors, il y a plusieurs choses. On insiste sur que cette mission, c'est vraiment une mission qui doit se vivre en équipe.
Oui.
On insiste vraiment là-dessus pour pouvoir prier, se confier, partager, relire aussi quand on rencontre ou une joie ou raison de plus une difficulté, une rencontre qui s'est pas bien passée, qui lui a procuré de la souffrance ou un malaise comme ça peut arriver, parce que nous sommes tous humains, nous-mêmes et les personnes que nous rencontrons. Donc, il est important d'avoir un lieu où poser tout ça, où se dire, où se ressourcer. D'où l'importance de l'équipe. Alors, les aumôneries travaillent, fonctionnent en équipe avec des réunions régulières. Et moi, j'incite les personnes dans les équipes au niveau des paroisses, dans les services évangéliques des malades aussi, de faire équipe et de se retrouver en équipe, et j'essaie de les motiver là-dessus. Et puis après, il y a des formations.
Voilà. Alors Sabine, parlons actualité même dans notre propre diocèse. Nous approchons du 8 février où sera célébré le dimanche de la santé. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Comment ça se vit ?
C'est déjà préparé au niveau national, on a de la documentation et le thème de cette année, c'est « Que votre lumière brille ». Mmh. Alors, le dimanche de la santé est surtout à ne pas confondre avec la journée des malades le 11 février.
Eh oui.
C'est le dimanche le plus près.
D'accord.
De la journée des malades.
Cette année, c'est le 8 février.
Exactement. Mais en fait, ce dimanche de la santé est pour mettre en avant et pour remercier d'une certaine façon toutes les personnes qui sont autour des malades et des personnes porteuses de handicap ou des personnes âgées, que ce soit les aidants, les soignants, les bénévoles des associations, les hospitaliers, et je dois en oublier. Donc, les chercheurs aussi, voilà.
Des célébrations d'action de grâce, d'une certaine
Alors
façon.
Voilà, donc j'ai en début d'année 2026 envoyé une trame avec différentes propositions pour mettre dans les paroisses ces personnes en valeur, ces personnes à l'honneur. Alors il y a des intentions de prière, il y a des propositions pour la liturgie. Et après, chaque paroisse, en lien avec son curé, fait ce qu'il veut. Alors, par ailleurs, au niveau de la pastorale de la santé, ça me donne l'occasion de dire qu'il y a un groupe de soignants chrétiens qui s'est relancé il y a 2 ans, qui s'appelle la Fraternité Saint-Luc. Et ce groupe se réunit tous les 2 mois en soirée. Et depuis l'année dernière, nous profitons de ce dimanche de la... Alors, la Saint-Luc... C'est au mois d'octobre. Mmh. Pour nous, ça correspond à notre pèlerinage diocésain. Donc, c'est compliqué de motiver tout le monde. Donc, on a décidé sur notre diocèse de mettre à l'honneur ces soignants plutôt au moment du dimanche de la santé. Et ce qui me donne l'occasion de dire que le samedi 7 février à 18h à la paroisse Sainte-Bernadette à Tarbes, la liturgie, la messe sera préparé et animé par cette fraternité Saint-Luc.
D'accord. Voilà. Merci. Avant de conclure, quelques mots, parce qu'on aura d'autres fois l'occasion dans cette émission de vous inviter, Sabine. Mais déjà, je voudrais savoir, pour vous personnellement, Sabine, qu'est-ce que vous apporte cette belle mission diocésaine ?
Ce qui me vient spontanément, c'est déjà de belles rencontres. Que ce soit avec les personnes que je rencontre dans le cadre de ma mission d'aumônier, les malades, les familles, les soignants. Et puis, dans mon autre mission de coordinatrice de la pastorale de la santé, mission très diversifiée, donc richesse des rencontres, dans la diversité, dans la qualité des rencontres. Bien sûr, un enrichissement de ma foi, de ma vie personnelle, et faire une paix avec moi, avec mes fragilités, parce que les rencontres que nous faisons dans ces missions, je dis bien ces missions puisque j'en ai 2, permettent de se décentrer, de réfléchir, de... Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi l'autre, la personne rencontrée, quel que soit le cadre, n'est pas en accord avec ce que vous auriez fait ou ce que j'aurais fait. Et le fait de ne pas être en accord, moi en tout cas, ça me permet de réfléchir et de me réajuster et de cheminer. Et très honnêtement, ça m'a permis de faire la paix avec ma maman avant son départ vers Dieu.
Merci Sabine pour votre beau témoignage plein d'humilité. Pour votre aussi, tout l'éclairage que vous nous avez apporté sur votre service diocésain, on va vous souhaiter une belle continuation dans votre mission.
Merci infiniment à vous aussi.
Et puis, à tous nos auditeurs, une belle célébration du dimanche de la santé.
Merci beaucoup, Anne.
À une prochaine fois.
À une prochaine fois.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
En esta noche de tequila, boom boom, yeah. Eres tan
Présence à Pau 96.
Du Pays basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les sites fameux pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Franz Schrader. Pyrénéiste, explorateur, inventeur, pionnier de la cartographie des Pyrénées, photographe et peintre paysagiste de talent, doté d'une belle plume, le jeune Schrader a dû être effrayé en ouvrant les yeux de voir tant de fées se pencher sur son berceau. Son coup de maître fut, en 1875, la publication de la carte du massif Gavarnie-Montperdu au 1/40 000e qui démêla les chevaux géographiques que constituait cette région. Voici donc enfin dévoilé ce versant mystérieux, cet agencement jadis inextricable de pics et de vallées. Il a mis au point l'orographe, instrument qui permettait d'obtenir directement sur papier les lignes de paysage à partir des visées d'une lunette. Le 11 août 1878, en compagnie du guide Henri Passé, il réalise la première ascension du Grand Batchimal, 3177 mètres, rebaptisé par la suite Pic Schrader, un des derniers 3000 non encore gravis. Il raconte ici son arrivée dans le grandiose canyon d'Ordessa, au pied sud du Mont Perdu, qu'il fut l'un des premiers à explorer et qui sera classé parc national dès 1918. Le spectacle est prodigieux. Sous les pieds, absolument à pic, 8 à 900 mètres de vide. En bas, des prairies, des forêts et le torrent d'Ordessa forment une sorte de jardin immense, d'une grâce indicible. Vis-à-vis, surgissant du milieu des forêts de sapins, les murailles verticales du Cotatuero et du Salarus qui fuient obliquement vers l'ouest-nord-ouest, où nous reconnaissons les grandes cimes des Monts d'Enfer et du Tendenera. Je n'ose décrire la vue en détail, craignant de me faire accuser d'exagération. Mais à mesure que nous avançons, que la branche inférieure de la vallée se révèle par degrés, que nous voyons les murailles du versant nord se dégager les unes des autres avec leur merveilleuse harmonie de forme, de teinte, de proportion et de détails exquis, nous sommes envahis par le sentiment d'une sublimité qui dépasse de bien loin tout ce que nous avions attendu. À chaque pas, nous découvrons quelques splendeurs nouvelles dans cet immense monument de 12 kilomètres que nous sommes les premiers à contempler dans son ensemble. Nous cherchons des rapprochements pour bien fixer l'impression dans notre esprit. À quoi comparer la teinte des rochers ? C'est à la fois la chair rosée du saumon, la pulpe d'abricot, la peau d'orange, la flamme du soleil couchant ou du fer rouge, tout cela mêlé dans un éclat qui semble illuminer les forêts jusqu'au plus profond du gouffre. D'une extrémité à l'autre de la vallée, les couches superposées sur une hauteur de plus de 1000 mètres gardent leur horizontalité, leur couleur et leur contexture particulière. L'une très mince, d'un rouge vif, court comme un liseré de sang au sommet des contreforts qui s'élancent en avant des murailles. Une autre, d'un gris perle, s'allonge en longeant une corniche grâce à une étrange et une persistance incroyable au-dessus des créneaux qu'elle couronne ainsi d'une sorte de glacis finement strié. À mi-hauteur des murailles, une étroite terrasse interrompt les colonnes de rochers. Ensuite, toutes les ondulations se plient avec une souplesse de serpent autour des golfs et des caps, enveloppe les moindres sinuosités de sa ceinture d'éboulement centré et, dans certains replis, se transforme en escalier arrondi sur chaque marche desquelles une strie de fleurs d'ajonc brille comme un filet d'or. À travers les mots, les regards, inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Franz Schrader. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées » inspirant tous mes récits.
Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You give me good. From A to C, my life was strong like a wind blows sand, and the rock was firm when you hit my hand. Oh, Sunny, what's so true? I really love you.
Inséré 95.8
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le pape sur l'île de Tenerife, dans les Canaries, dernière journée en Espagne avant de reprendre l'avion pour